Vous écoutez On lit pour vous.
Mark Carney annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. Un texte de la presse canadienne publié le 16 juin 2026 dans Radio-Canada. Le premier ministre Mark Carney a annoncé que le Canada allait imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. M. Carney a fait cette annonce mardi lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le cadre du sommet du G7 qui se tient en France. Ces sanctions visent la flotte fantôme russe, les revenus énergétiques, l'industrie de la défense et les acteurs de la désinformation. Ce train de mesures visera 162 personnes, entités et navires. Ottawa vise la flotte fantôme de la Russie, ses revenus énergétiques, son secteur de l'industrie de la défense et les acteurs de la désinformation. Nous collaborons plus étroitement sur la production de drones et nous discuterons de la prochaine étape de ce projet, a mentionné M. Carney en anglais devant les caméras. De son côté, M. Zelensky a remercié le Canada pour son soutien. Il a qualifié la séance de travail sur l'Ukraine de formidable. Nos partenaires ont soutenu nos messages. Ce dont nous avons vraiment besoin, un programme énergétique, une défense aérienne et davantage de missiles Patriot, a-t-il expliqué. La Russie n'est pas en train de gagner et nous devons faire pression sur le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à cette guerre. Selon un compte-rendu du cabinet du premier ministre, M. Carney a condamné la dernière attaque russe contre Kiev, notamment la frappe contre le monastère de la Lorde des Grottes lors de sa rencontre en privé avec M. Zelensky. Le premier ministre Carney a souligné le soutien du Canada à l'égard de la reconstruction de l'Ukraine, notamment les occasions de tirer parti de l'expertise canadienne en matière d'énergie, d'infrastructures et de technologies propres, peut-on lire dans le résumé de la discussion. Le premier ministre a aussi noté l'importance de poursuivre les réformes pour renforcer la résilience de l'Ukraine. En 2026, le Canada a fourni 2,8 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et a imposé des sanctions à plus de 3 400 personnes et entités, de même qu'à 600 navires. En mai, M. Carney a annoncé que le Canada verserait 270 millions de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine à se doter de capacités militaires essentielles pour se défendre contre l'invasion à grande échelle de la Russie. Plusieurs rencontres. La rencontre avec M. Zelensky était l'une des 5 réunions bilatérales qui se trouvaient à l'horaire de M. Carney pour la journée de mardi. Le premier ministre devait aussi s'entretenir avec les dirigeants de l'Italie, des Émirats arabes unis, de l'Inde et de la Corée du Sud. Lors d'une séance de travail sur l'Ukraine, les dirigeants se sont concentrés sur le maintien du soutien international, sur le renforcement de la pression coordonnée sur la Russie et sur la poursuite des efforts en faveur de la paix. Lors de sa rencontre avec la première ministre italienne, Giorgia Meloni, M. Carney a annoncé que le Canada avait entamé des négociations avec l'Italie en vue de faire l'acquisition d'avions d'entraînement avancés à réaction M346. Ces avions sont conçus et fabriqués par Leonardo, l'une des plus grandes entreprises aérospatiales italiennes. On ignore pour l'instant combien d'avions le Canada envisage d'acheter. La première journée complète du sommet des dirigeants de 2026 comprendra également des discussions sur les conflits au Moyen-Orient et sur le recul des financements en matière d'aide étrangère. Avant le voyage, des responsables canadiens ont confié aux journalistes, sous le sceau de l'anonymat, que les principales priorités du Canada pour le sommet concernaient les minéraux critiques, les déséquilibres macroéconomiques et la réforme de l'aide étrangère. Ces responsables ont ajouté qu'un défi majeur réside dans le fait que bon nombre de ces déséquilibres macroéconomiques découlent de la surcapacité industrielle de la Chine. Le président de la France, Emmanuel Macron, a organisé la semaine dernière une visioconférence avec un haut responsable chinois et des dirigeants comme M. Carney, en lieu et place de la participation de la Chine au sommet. John Curtin, qui dirige le groupe de recherche sur le G7 de l'Université de Toronto, estime que le sommet d'Évian pourrait déboucher sur des avancées concernant des thèmes majeurs, malgré les tensions avec les États-Unis au sujet des droits de douane. M. Curtin rappelle que l'administration Trump a trouvé de nombreux points d'accord avec ses alliés lors du sommet de l'année dernière organisé par M. Carney à Kananaskis, en Alberta. C'était « Mark Carney annonce de nouvelles sanctions contre la Russie », un texte de la presse canadienne publié le 16 juin 2026 dans Radio-Canada.
"23 juin, Journée internationale des veuves, un texte de la rédaction, paru sur le site de l'ONU. Des femmes invisibles aux problèmes invisibles. Pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est amplifiée par un combat de longue haleine pour leurs droits fondamentaux et leur dignité. Malgré le fait qu'il y ait plus de 258 millions de veuves dans le monde, celles-ci ont, historiquement, été laissées dans l'ombre et souvent sans mesure de soutien dans nos sociétés. Les conflits armés, les déplacements et les migrations laissent des dizaines de milliers de femmes veuves et de nombreuses autres dont les partenaires ont disparu. Leurs expériences et besoins uniques doivent être mis en avant et leurs voix doivent tracer le chemin. Les veuves se voient souvent refuser leurs droits de succession ou confisquer leurs biens après la mort de leur conjoint. Elles font parfois aussi face à une stigmatisation et à des actes de discrimination sans précédent, car elles sont taxées d'être, à leur tour, porteuses de la maladie. À l'échelle mondiale, les femmes ont moins de chances d'avoir accès à des pensions de vieillesse par rapport aux hommes, de sorte que le décès d'un conjoint peut entraîner le dénuement des femmes âgées. Certaines veuves n'ont pas d'accès possible aux comptes bancaires, par exemple, entravant leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Les familles monoparentales et les femmes âgées célibataires, étant déjà particulièrement vulnérables à la pauvreté, c'est une question qui nécessite d'urgence toute notre attention. Bien que les données restent limitées, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. Une sur dix vit dans une pauvreté extrême. L'absence de données solides et fiables reste l'un des principaux obstacles à l'élaboration de politiques et de programmes d'élimination de la pauvreté, de la violence et de la discrimination dont sont victimes les veuves. Plus de recherches et de statistiques ventilées par statut matrimonial, sexe et âge sont nécessaires pour mieux évaluer l'incidence de leur maltraitance. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, le 23 juin, découvrez certains des problèmes qui touchent les veuves dans le monde et ce qu'il faut faire pour sauvegarder et faire progresser leurs droits. La situation des veuves. Pauvreté. Souvent privées d'éducation, les veuves n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'accès limité ou absent au crédit et à d'autres ressources financières aggrave leur situation économique. De nombreuses veuves dans les sociétés traditionnelles sont en effet privées du droit d'hériter des biens, notamment des droits fonciers. Sans le droit d'hériter, les veuves tombent dans une situation précaire, voire dans la pauvreté, et deviennent dépendantes de la charité de la famille de leur époux. Dans certains pays où le veuvage est considéré comme un statut social très bas, des milliers de veuves sont reniées par les membres de leur famille et privées de logement. Cela les oblige à chercher des emplois peu rémunérés, telles que femme de ménage, ou se tourner vers la mendicité ou la prostitution. Dans certains cas, les veuves peuvent aussi être amenées à rembourser les dettes contractées par leur mari décédé. Violence. Particulièrement en Afrique et en Asie, les veuves se retrouvent victimes de violences physiques et mentales, dont des abus sexuels, liés à des litiges en matière de succession, de terres et de propriétés. Les veuves sont contraintes de participer à des pratiques traditionnelles nuisibles, dégradantes et même mortelles dans le cadre des rites d'inhumation et de deuil. Dans un certain nombre de pays, par exemple, les veuves sont obligées de boire l'eau dans laquelle le corps de leur mari a été lavé. Les rites de deuil peuvent également impliquer des relations sexuelles avec des parents masculins, le rasage des cheveux ou la scarification. Santé. Une mauvaise nutrition, un logement inadéquat et des épisodes répétés de violence accompagnés d'un manque d'accès aux soins de santé ont un impact négatif sur le bien-être physique et mental des veuves. Leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive ne sont souvent pas pris en compte, ce qui les rend particulièrement vulnérables dans le contexte du VIH et du SIDA. Situation de conflit. Un grand nombre de femmes deviennent veuves au cours ou à la suite d'un conflit armé. Elles doivent alors subvenir seules aux besoins de leurs enfants, parfois dans un pays qui n'est pas le leur, voire même dans un camp de réfugiés. Dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo, par exemple, environ 50% des femmes seraient veuves. Il y aurait environ 3 millions de veuves en Irak et plus de 70 000 à Kaboul, en Afghanistan. En plus des crimes et des atrocités dont elles ont été les témoins, les veuves peuvent elles-mêmes être l'objet de violences, notamment sexuelles, en période de guerre. Violées et mutilées, beaucoup d'entre elles contractent le sida. Améliorer la situation des veuves. Afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin Journée internationale des veuves. Aujourd'hui, plus que jamais, cette journée est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Il s'agit notamment de leur fournir des informations sur l'accès à une part équitable de leur patrimoine, de leurs terres et de leurs ressources productives, une pension et une protection sociale qui ne sont pas basées uniquement sur l'état matrimonial, un travail décent et un salaire égal, ainsi que des possibilités d'éducation et de formation. Donner aux veuves les moyens de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille permet de lutter contre la stigmatisation sociale qui provoque l'exclusion et des pratiques discriminatoires ou préjudiciables. Au niveau du droit international, les droits des veuves sont indirectement garantis par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'une législation nationale spécifique existe pour protéger leurs droits, la faiblesse du système judiciaire de nombreux États compromet la manière dont ils sont défendus en pratique. Il arrive que la discrimination de la part même des spécialistes des questions judiciaires décourage les veuves qui abandonnent le recours à la justice pour obtenir réparation. Pour faire face à ces violations, des programmes et des politiques d'élimination de la violence à l'égard des veuves et de leurs enfants doivent être mis en place ainsi que l'offre d'un soutien supplémentaire, tel un soutien financier. Celui-ci permettrait notamment aux enfants de continuer leur éducation, brisant ainsi le cycle intergénérationnel de la pauvreté. L'autonomisation des veuves, grâce à un accès aux soins de santé, à l'éducation, à un emploi décent et à la prise de décision au sein de la société, leur permettrait de vivre à l'abri du besoin. L'amélioration de leurs conditions entraînerait finalement une réduction des inégalités et de la pauvreté, accélérant la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Dans les situations post-conflit, les veuves devraient être invitées à participer pleinement au processus de consolidation de la paix et de réconciliation afin de s'assurer qu'elles puissent contribuer à une paix et une sécurité durable. Le saviez-vous? On estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. Une veuve sur 10 vit dans une pauvreté extrême. Dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo, par exemple, environ 50% des femmes seraient veuves. Les veuves sont parfois contraintes de participer à des pratiques traditionnelles dangereuses, dégradantes, ou ayant parfois des conséquences mortelles dans le cadre des rites d'inhumation ou de deuil. C'était 23 juin, Journée internationale des veuves, un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU.
L'atome revient dans le débat énergétique québécois. En sous-titre, le nucléaire continue de polariser le débat. Explication. Un texte de Juliane C. Lelarge, publié dans Le Devoir du 2 juin 2026. Alors qu'Ottawa accélère son développement nucléaire, que Québec évalue différents scénarios énergétiques et que le nouveau chef libéral Charles Millard se dit ouvert à la filière, l'atome refait surface dans le débat public, présenté par ses partisans comme une solution décarbonée pour répondre à la demande croissante en électricité. Le nucléaire continue de polariser le débat. Pourquoi y a-t-il résurgence de l'intérêt pour le nucléaire? L'électrification de la société et le recul progressif des énergies fossiles, notamment dans les transports et les bâtiments, devrait entraîner au cours des prochaines années une hausse marquée de la demande en électricité, explique Karim Zaghib, professeur de génie chimique à l'Université Concordia et ancien directeur de la recherche à Hydro-Québec. Il souligne également la croissance rapide du secteur de l'intelligence artificielle et des centres de données qui est susceptible d'accentuer cette pression. L'instabilité géopolitique actuelle et les aspirations à l'indépendance énergétique alimentent d'autre part un mouvement de relance de la filière nucléaire observé à l'échelle mondiale. Et le développement de nouvelles technologies comme les petits réacteurs vient renforcer cette tendance, bien que certains experts appellent à la prudence. Alors que le Canada accélère le développement nucléaire, le Québec ne ferme pas la porte à cette avenue abandonnée en 2012 avec la fermeture de Gentilly 2. Cet intérêt s'est notamment manifesté dans les plans préliminaires du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques publié en mars, où un scénario de retour au nucléaire est exploré, même si plusieurs acteurs du milieu s'interrogent sur les influences derrière cette inclusion. Citation. On sait par exemple qu'au Québec, la firme Atkin Realist fait des efforts de lobbyisme en ce sens. Il y a aussi des corporations américaines qui exercent des pressions. Fin de citation, explique Jean-Pierre Finet, analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. L'énergie nucléaire présente-t-elle des avantages? Le nucléaire fait partie des sources d'énergie les moins émettrices de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie, au même niveau que l'éolien et l'hydroélectricité. Citation: par rapport à l'éolien, il y a aussi l'avantage d'être plus silencieux et de ne pas avoir d'impact important sur le paysage ou l'occupation des terres, explique Karim Zaghib, qui note que la géographie du Québec et sa multitude de cours d'eau se prêtent facilement à l'installation de centrales. Selon Guy Marlot, professeur au département de génie physique de Polytechnique Montréal, les infrastructures nucléaires ont également une durée de vie beaucoup plus longue, 60 ans pour une centrale contre 12 en moyenne pour une éolienne. La production d'électricité d'une centrale nucléaire est également sans commune mesure avec les énergies renouvelables, mentionne-t-il. Karim Zaib voit le nucléaire comme un complément à l'éolien et au solaire et insiste sur l'importance de diversifier les sources d'énergie pour assurer la résilience du réseau, car le nucléaire permet d'assurer un apport énergétique de base plus stable, explique-t-il. Aux yeux de Jean-Pierre Finet, par contre, le caractère non modulable du nucléaire est un désavantage. Citation: pour l'hydroélectrique, on peut s'adapter selon la demande. Avec le nucléaire, c'est le pied dans le tapis en permanence, explique-t-il, fin de citation, soulignant que l'énergie produite en période de faible demande est vendue à bas prix, voire à perte. Citation: d'où le fait qu'on achète beaucoup d'énergie à faible coût à l'Ontario, qui n'a parfois d'autre choix que de s'en départir. Fin de citation. Les progrès en matière de stockage d'énergie relativisent aussi le problème de l'interminence des énergies renouvelables, dit-il. Citation: le nucléaire constitue parfois une solution de rechange pour des acteurs plus climato-sceptiques qui rejettent par principe les renouvelables, précise pour sa part Philippe Gauthier, fin de citation, analyste en énergie à la Fondation Rivière, qui donne comme exemple la stratégie énergétique déployée par le gouvernement Trump aux États-Unis. Qu'impliquerait un réinvestissement dans la filière au Québec? Citation: ce serait extrêmement cher. Fin de citation, résume d'emblée Philippe Gauthier, qui précise que le développement nucléaire est l'une des formes de production d'énergie les plus dispendieuses. Citation: c'est une industrie généralement très subventionnée par l'État parce que le privé est moins prêt à prendre ses risques, ajoute pour sa part Jean-Pierre Finet. Fin de citation. Il souligne que la majorité des projets de construction de centrales nucléaires s'étalent généralement sur une dizaine d'années, dépassent les délais et les budgets prévus. Citation: les deniers publics viennent dérisquer les projets, note-t-il, en ajoutant que les clients sont ensuite appelés à absorber les coûts. Autre enjeu: l'expertise québécoise est en voie de disparition. Citation: pour pouvoir fermer les centrales Gentilly, Hydro-Québec a dû retourner voir ses retraités, qui étaient les seuls à avoir encore cette expertise. Fin de citation, se souvient Philippe Gauthier. Ce manque d'expertise fait de la filière une entreprise encore très américaine, affirme Jean-Pierre Finet, qui rejette l'argument de la souveraineté énergétique. Il mentionne que les plus grandes installations nucléaires canadiennes, les laboratoires de Chalk River, sont depuis 2025 gérées par un consortium privé américain, dont certaines des plus grandes entreprises sont liées au secteur américain de la défense. La question de la sécurité est-elle encore d'actualité? Citation: aujourd'hui, la sécurité est un acquis. Fin de citation, soutient Karim Zaghib, qui mentionne que les accidents se font désormais très rares. La question qui fait débat demeure celle des déchets radioactifs. Citation: avec nos capacités actuelles de forage, on est capable de les enfouir à des dizaines de kilomètres sous terre, affirme le chercheur. Fin de citation. Autre citation: la question des déchets est loin d'être réglée. Fin de citation, objecte pour sa part Jean-Pierre Finet. Il cite comme exemple le déversement d'eau usée toxique issue des installations de Chalk River dans la rivière des Outaouais en 2024. Le projet nucléaire, qui a reçu dans les dernières semaines une subvention fédérale de 2,2 milliards, prévoit l'enfouissement de grandes quantités de déchets radioactifs près de la surface. Cette partie du projet fait l'objet de litiges, entre autres, avec la communauté Anishinaabe Kebaowek, qui a remporté une victoire à ce propos le 28 mai dernier en Cour fédérale d'appel. Plus largement, des experts reprochent à l'industrie nucléaire un réel manque de transparence. Citation: le processus de surveillance actuel est pratiquement inexistant, déplore Philippe Gauthier, qui juge trop étroits les liens entre l'industrie et les instances de réglementation. Il cite comme exemple le cas des 62,8 tonnes d'uranium irradié déplacées dans le secret sur les routes du Québec à l'été 2025. Plusieurs experts interrogés estiment que la tendance mondiale de retour à l'énergie nucléaire doit également être analysée à la lumière du phénomène de réarmement nucléaire. Citation: l'industrie militaire a besoin de l'industrie civile pour développer son expertise, explique Philippe Gauthier. On ne peut pas faire abstraction du fait que les applications militaires font encore partie de l'équation. Fin de citation.
Le développement du nucléaire s'inscrit-il dans une optique de transition?
Citation: il ne faut pas confondre l'ajout de production décarbonée avec la décarbonation, explique Jean-Pierre Finet. Tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est ajouter de la production décarbonée sans réduire le reste de notre consommation, ce qui ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. C'est surtout un prétexte pour industrialiser davantage. Fin de citation. Selon lui, il ne s'agit pas d'augmenter la production d'énergie, mais de mieux en gérer la distribution et la consommation, notamment au moyen d'un stockage plus efficace. Plus largement, des experts appellent les gouvernements à oser parler de sobriété énergétique. Citation: on dirait qu'on fait tout ça pour éviter d'avoir à changer nos comportements puis nos modes de vie. La perspective extractiviste n'est pas soutenable, soutient M. Finet. Fin de citation. Fin de ce texte de Juliane C. Lelarge, titré « L'atome revient dans le débat énergétique québécois », publié dans Le Devoir du 2 juin 2026.